Bonjour, c'est Cédric. J'espère que tu vas aimer ce nouvel épisode d'Outils du Manager. Si les idées dont je vais te parler te plaisent, tu auras peut-être envie de passer à l'action. Pour ça, j'ai créé une série de mails spécifiques en lien avec le sujet de ce jour. Pour recevoir cette série, il suffit que tu cliques sur le lien en descriptif. Je t'en reparle en fin d'épisode. En attendant, je te souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, comment redresser une entreprise quand on est directeur général? Je suis Cédric Watine et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Tu le sais, chez Outils du Manager, on est reconnaissant envers tous les managers. Parce que sans manager, il n'y a pas d'entreprise et parce que le rôle de manager est parfois ingrat et difficile, même s'il peut apporter de grandes satisfactions. Je suis donc toujours à la recherche de managers prêts à témoigner en toute franchise de leur parcours. Il est très rare en France d'avoir le témoignage de directeurs généraux salariés, il est encore plus rare que ces témoins soient des femmes, et il est encore plus rare que celles-ci fassent preuve à la fois d'humilité et de pragmatisme. C'est pour ça que j'ai été très heureux d'avoir pu échanger avec Ilani Atia, qui a été la directrice générale de la marque Guérin Joaillerie pendant 5 ans et qui en a mené le retournement. Elle a publié un livre qui s'intitule Splash, où elle raconte cette aventure et nous donne les outils qu'elle a utilisés pour mener à bien ce changement. Attention, prépare-toi à un témoignage exceptionnel de franchise, d'honnêteté et d'humilité. Prépare-toi aussi à prendre des notes, car on va parler d'outils et de principes qui te seront, je l'espère, utiles, quelle que soit ta position dans la hiérarchie de ton entreprise. Et on terminera notre discussion avec les pépites que nous propose Ilani, ce qui est de circonstance, tu la vois. Si tu veux aller plus loin, je te mets en descriptif le lien vers le livre d'Ilani qui s'appelle Splash et vers le forum si tu veux continuer cette conversation. Mais pour l'instant, place au témoignage d'Ilani Atia. Bonjour Ilani.
Bonjour Cédric. Comment vas-tu? Merci de me recevoir.
Alors nous on se voit, oui, effectivement, et les auditeurs nous entendent. Comment vas-tu? Tu m'as dit que tu avais la voix un petit peu cassée.
Oui, j'étais à un super concert hier soir et du coup, elle est encore plus grave que d'habitude.
D'accord, ok. Bon, j'espère qu'elle va tenir jusqu'à la fin.
Ouais, ça devrait aller.
Sinon, on fera une version écrite et puis sinon, il y a le livre hein, qui va permettre de se rattraper si jamais on a des problèmes d'audio. Moi, j'aime bien commencer en te laissant te présenter, en nous disant d'où tu viens, où tu te situes actuellement et vers quoi tu vas, si la formule te va. Et puis juste après, on va parler de ton livre.
Ok, je m'appelle Ilani Atia, c'est un prénom israélien, c'est une question qu'on me pose souvent, j'ai la double nationalité, okay. Je suis arrivée en France à 4 ans. J'ai fait des études de commerce, j'ai fait HEC, à la suite d'HEC, je suis rentrée dans le groupe Galeries Lafayette, où j'ai fait une longue première partie de carrière à la direction des achats. La direction des achats, c'est là où les équipes décident des marques qui rentrent dans les magasins du groupe et négocient les conditions de commercialisation. J'ai fait ça pendant plus de 15 ans sur une dizaine de secteurs différents. De mode homme, femme, enfant, de papeterie, loisirs, etc. Avec à chaque fois des problématiques de transformation, soit pour moderniser l'offre, soit pour rentabiliser le secteur, soit les deux. Voilà. Et donc j'ai fait ça de stagiaire à directrice des achats. Et puis en 2012, le groupe a racheté une enseigne de bijouterie moyenne gamme qui s'appelait Didier Guérin. Et j'ai été nommée directrice générale de Guérin à ce moment-là. Voilà, donc j'ai été DG de Guérin pendant 7 ans dans un contexte de retournement. Et c'est ce que je raconte dans mon livre.
D'accord. C'est vraiment cet angle qui m'intéresse beaucoup en t'invitant. Donc, c'est d'avoir le témoignage de quelqu'un d'abord qui a fait, alors tu appelles ça un retournement d'entreprise, en tant que salarié et pas forcément en tant qu'actionnaire propriétaire. Et c'est cet angle vraiment qui va m'intéresser parce que les problématiques ne sont pas toujours les mêmes. Et puis, le profil de la personne non plus. Et ce qui m'a vraiment intéressé, ce qui m'a passionné, moi, je rentre d'une semaine de vacances et j'ai eu l'occasion de lire ton livre qui s'appelle « Splash » et qui est sous-titré « Plonger au cœur d'une transformation d'entreprise ». Et ça m'a vraiment... ce qui m'a vraiment intéressé dans le livre, bon, c'est évidemment la prise de recul que tu as faite par rapport à ton expérience, mais aussi... une approche très pragmatique, c'est-à-dire très vécue de ce qui s'est passé. Et ça, c'est assez rare, surtout dans la littérature française. On a un peu d'exemples comme ça chez les anglo-saxons, mais vraiment en France, très peu. Et puis, ce qu'on se disait en off, en plus, par une femme, ce qui est encore plus rare. Donc, c'est vraiment ça qui va nous intéresser aujourd'hui, voir quelles leçons ou quelles choses on peut apprendre de ton expérience. Mais peut-être qu'on peut déjà un petit peu parler de ton livre, un petit peu sa genèse, c'est-à-dire en résumé ton aventure chez Guérin, et puis ensuite la raison pour laquelle tu as eu envie d'écrire ce livre.
Ouais, alors c'est deux choses distinctes en réalité, c'est-à-dire que il s'est passé quand même un an entre la fin de Guérin et le moment où je me suis mise à écrire le bouquin. L'histoire de l'aventure Guérin en quelques mots. Donc quand j'ai repris l'enseigne, en fait, c'était une enseigne de, on va dire, de haut de gamme du centre commercial, l'enseigne de bijouterie, qui en fait s'est retrouvée confrontée à des gros bouleversements sur le marché de l'or. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu plein de changements. Avec une typologie d'entreprise qui n'était pas forcément prête à recevoir cette grande vague de front. Voilà, très peu de digital, très peu de CRM, une marque pas construite. Enfin, voilà, il manquait des choses. Ça pouvait aller quand tout allait bien, mais voilà, quand on se prend une grosse vague, une grosse transformation de marché dans la vue, bah, les trous dans la raquette deviennent béants.
Ouais.
Bon, bref, donc on s'est retrouvé confronté à ça. On s'est rendu compte qu'en fait, l'entreprise était déjà en haut de sa courbe de croissance et plutôt en train de baisser. Et voilà, ce qui devait être pour moi, salarié, je sais que c'est l'an qui t'intéresse, un premier poste de DG, de transition douce, s'est révélé en fait être une situation difficile de. Économiquement, et donc a un besoin de repositionner une stratégie.
Alors, j'ai juste une petite question. En fait, tu as repris la direction, la société était déjà dans le giron du groupe ou tu l'as reprise au moment du rachat de l'entreprise ?
En fait, je l'ai reprise au moment du rachat de l'entreprise, parce que M. Guérin partait à la retraite et c'est là qu'il a revendu sa boîte au groupe.
D'accord.
On a eu une année en commun, donc c'était vraiment très confortable pour moi. Et puis ensuite, j'ai eu les rênes toute seule.
D'accord. Retournement de marché plus changement de direction.
Exactement. Donc voilà. Donc besoin de reposer une stratégie. Donc voilà, j'ai évalué les différentes possibilités. J'en ai proposé une au groupe qui était en fait une stratégie de premiumisation. Mm-hmm. Le groupe a dit OK et c'est ce que j'ai mené avec mon équipe pendant 7 ans. Premiumisation, ça veut dire qu'on a transformé Guérin de enseigne de bijouterie moyenne gamme à marque de joaillerie premium. Donc, plein de changements à la fois enseigne vers marque, ça n'a déjà rien à voir. Ouais. Un positionnement moyenne gamme un peu diffus vers un positionnement premium. Voilà, donc stratégiquement, c'était à la fois risqué, mais les autres options l'étaient aussi. Donc j'ai proposé celle qui me semblait aussi la plus en adéquation à la fois avec ce qu'était déjà l'entreprise et le besoin du marché.
Ok, super intéressant.
Voilà, donc c'est cette aventure de retournement que je raconte dans le livre, puisqu'on a changé tout, quoi. Enfin, du produit à l'expérience client, au digital, au réseau de magasins. Enfin, voilà, vraiment. Ouais. À 360 degrés.
Et alors, ce qui m'interroge tout de suite quand tu me parles de ton expérience, c'est ton profil. Tu es aux achats et ensuite tu passes à une direction générale et tu dis j'ai repris une entreprise j'ai repris les rênes d'une entreprise et je me suis rendu compte qu'elle était en fait en plein changement, alors que peut-être tu t'es imaginé que ce serait dans une continuité. Et quand on me dit ça, je me dis, mais ton profil à toi, Est-ce que c'est plutôt un profil de développeuse ou est-ce que c'est plutôt un profil d'intégratrice? C'est-à-dire que tu es plutôt dans la continuité ou tu es plutôt dans le changement fort?
Mon profil, il est dans le changement en douceur, je dirais.
Ouais.
Voilà, c'était vraiment mes expériences d'avant, c'était ça.
Ouais, c'est ce que...
Voilà, quand j'ai passé 5-6 ans sur la mode enfant, par exemple, comme acheteuse et ensuite comme directrice des achats, ouais. J'ai complètement changé le modèle économique du système, mais ça a pris plusieurs années.
D'accord.
Je suis pas dans un profil de redresseuse qui, en 6 mois, va te retourner la boîte. Voilà, enfin, c'est... En tout cas, c'était pas du tout comme ça à l'époque. Et en même temps, c'était pas normalement la feuille de route. Donc,
ok, d'accord.
Donc voilà.
Ok. Et donc, si j'ai bien compris, le livre, tu ne l'as pas écrit au fur et à mesure de ton expérience, mais tu l'as écrit après ton expérience, un an après ton expérience.
Exactement. En fait, après Guérin, j'ai eu envie de me reposer. Et surtout d'ouvrir mes chakras à d'autres sujets, parce que j'avais quand même passé beaucoup d'années dans le retail, la mode, voilà, sur des sujets finalement assez similaires. J'ai eu un besoin presque, enfin voilà, intellectuel de aller voir d'autres marchés, de voir ce qui se passait dans le monde en général.
Mmh.
Et en fait, en prenant le temps de faire ça, à la fois pour mon plaisir personnel et même en tant que citoyenne, j'ai regardé des sujets sur le dérèglement climatique, sur la remise en cause des démocraties un peu partout dans le monde, enfin sur tout ce qui se passe aujourd'hui qu'on vit en puissance 10, en plus il y a le Covid qui est arrivé par la suite, donc ça laisse plein de champs possibles de réflexion et d'ouverture.
Mmh.
Et en fait, cette période de vide fertile quelque part m'a fait prendre conscience de façon beaucoup plus forte des énormes transformations qui attendaient les entreprises demain, enfin c'est même pas demain, c'est aujourd'hui, à quel point les modèles dans lesquels on travaille aujourd'hui, dans lesquels les entreprises évoluent, vont devoir se transformer. Et je me suis retrouvée un peu dépourvue face à cette montagne, en me disant, waouh, quelle va être ma place là-dedans, qu'est-ce que je peux faire? Et alors, pour tout dire, un jour, j'ai vu une vidéo de Frédéric Laloux, donc,
ouais.
Voilà, un grand écrivain sur
l'entreprise libérée, etc. Ouais.
Voilà, sauf qu'en fait, j'ai regardé une vidéo qui avait rien à voir avec ces sujets, mais où il raconte son changement de vie et où il dit à un moment donné, bon, j'ai arrêté de me poser des questions et j'ai fait ce qui me semblait juste à un instant T.
Ouais.
Et en fait, un genre de flash et je me suis dit, moi aussi, je vais faire ce qui me semble juste maintenant. J'ai appris des choses sur la transformation chez Guérin. Ça n'avait rien à voir d'une transformation pour un monde meilleur. Enfin, voilà, c'était plutôt une transformation de business.
Ouais.
Mais sur la conduite du changement, sur comment on embarque les équipes, sur tous ces sujets-là, j'ai appris plein de trucs. Bah, je vais au moins le poser dans un... Voilà. Enfin, en tout cas, je l'ai mis dans un document qui est devenu un livre pour pouvoir ensuite le partager avec des chefs d'entreprise ou des patrons d'activités qui ont ces sujets-là à traiter dans un contexte encore probablement plus difficile que celui que j'ai eu chez Guérin.
Mmh.
Et puis voilà, ça va aider, quoi. Enfin, je l'ai fait avec cette intention-là.
Ce qui m'a intéressé aussi dans ton approche, parce que moi, je pense que ça peut même être encore plus large, c'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas dans un poste de direction générale ou un poste très très élevé dans l'entreprise, dans la hiérarchie de l'entreprise, j'entends, ça peut aussi l'aider à comprendre les défis auxquels les entreprises ont à faire face et ça peut aussi l'aider à comprendre la stratégie de l'entreprise dans laquelle il se situe. Il y a aussi ça que j'ai trouvé intéressant. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu as une approche pragmatique. On voit bien qu'en fait, tu as tiré des outils de ton expérience ou des manières de raisonner ou des principes ou des modèles mentaux qui, je pense, sont utilisables quelle que soit l'activité. D'ailleurs, pas forcément une activité business. Ça peut s'appliquer à plein de choses parce que tu parles beaucoup de ton équipe et de la manière de l'emmener dans un contexte de changement. Et c'est ça, c'est la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu peux nous donner des éléments sur la manière dont tu as composé et managé ton équipe dans ce contexte de nécessité de retourner la boîte. En plus, je veux dire, t'as tout eu en même temps, c'est-à-dire que t'as dû intégrer une équipe qui te connaissait pas, que tu connaissais pas, dans un groupe dont eux n'avaient pas eu, enfin, vous n'avez pas eu d'historique commun.
Ouais.
Donc, c'est presque comme si on t'avait un petit peu imposé une équipe, c'est-à-dire on t'avait dit, bah voilà, l'équipe c'est ça, et avec ça, qu'est-ce que vous allez faire? Et dans le livre, tu cites plusieurs outils qui me paraissent intéressants. Tu parles de la stratégie des alliés, tu parles de la typologie des personnes, de l'alignement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as tiré de ça?
Ouais. Alors déjà, peut-être en contexte, il faut dire que j'ai quand même eu la chance, quelque part, que la boîte n'avait pas de CODIR quand je suis arrivée. C'est-à-dire que M. Guérin gérait en râteau,
Ah, d'accord.
je pense, entre 15 et 20 personnes. Donc, c'est pas non plus comme si j'étais arrivée avec un comité de direction de plusieurs personnes déjà installées qui me voient débarquer. J'ai eu cette chance de pouvoir constituer l'équipe. En plus, on a eu cette année de transition où il était là. Donc, moi, j'ai mis en place mon CODIR une fois qu'il était parti. Donc, j'ai eu le temps de rencontrer les gens, de détecter ceux qui avaient à la fois le potentiel, l'envie que j'imaginais dans mon CODIR. Et puis, de voir aussi, par rapport à là où j'allais emmener l'entreprise, les profils qui manquaient. Parce que on peut... il y a les équipes en place par rapport à ce que la boîte vit à un instant T, mais il y a aussi là où on veut l'emmener, avec parfois des besoins différents. Et sur certaines fonctions, j'ai eu ce besoin-là. Et du coup, j'ai à la fois pris des gens qui étaient déjà dans la boîte et je les ai poussés un peu. Enfin, voilà, certains y étaient prêts, d'autres un peu moins, mais ça, c'est, voilà, ça qui est chouette, quoi, comme, en tant que manager ou leader, c'est de faire grimper des gens et de leur dire bah, « si tu peux le faire, je t'assure, on va y arriver
ouais, ».
et après, j'ai eu sur certaines fonctions la possibilité du coup de recruter aussi des gens qui apportaient un savoir-faire nouveau dont on avait besoin pour la suite. Et du coup, je me suis retrouvée avec des anciens et des nouveaux dans le CODIR, ce qui... aurait pu être une difficulté, parce que c'est vrai que les vécus étaient du coup très différents, et que je dirais que j'ai résolu par le fait de travailler en équipe sur la base aussi d'une vision et d'une aventure qu'on était collectivement en train de construire ensemble, en fait. Mmh. Et c'est vrai que je l'ai jamais ressenti comme une difficulté, parce que finalement, on regardait plus tellement le passé, c'est-à-dire que quand ça tangue, tu regardes surtout comment tu vas t'en sortir, ouais. Ce que tu peux faire. Et à partir du moment où c'est ça qui motive tout le monde, qu'ils soient anciens ou nouveaux, quelque part, on se complète, quoi. Les nouveaux qui étaient arrivés, apportaient leur savoir-faire et ce qu'ils avaient vu ailleurs. D'autres, là, qui étaient déjà là, connaissent tous les rouages de la boîte, les équipes en place et tout. Et à partir du moment où on partage quand même un certain nombre de valeurs communes, et qu'on a un objectif et que le patron fait bien son job de mettre du lien entre les gens.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, pendant un an, vous avez été en commun et donc tes transformations, tu as commencé à les mener alors qu'il était encore là. Ta structuration du management, tu l'as commencé alors qu'il était encore là.
Ouais, en fait, c'est venu petit à petit, c'est-à-dire que au début, et c'est ça, enfin, dans la vraie vie, c'est ça, c'est-à-dire que tu te dis pas il faut absolument tout changer immédiatement. Ouais. Enfin, voilà. Ouais. Quand t'as une boîte qui allait bien jusqu'à présent, qui commence à chuter en chiffre d'affaires, t'as toujours ce moment où tu te dis, bon, c'est peut-être conjoncturel, je vais faire des quick wins, ok, c'est un peu vieillissant, je vais amener un peu de modernité, mais, enfin, la prise de conscience de l'ampleur du changement, en tout cas pour moi, elle est venue, quand même au bout de, un an et demi, quoi. Ça a mis du temps, quoi.
Surtout qu'en général, les personnes qui sont dans la boîte que tu récupères, elles vont plutôt te dire que c'est conjoncturel, puisque elles sont dans le... Puisqu'il n'y a pas de comité... Enfin, j'imagine, a priori, les gens sont dans la boîte. Tu en as peut-être quelques-uns qui sont en train de tirer l'alarme depuis longtemps et que personne n'écoute. Mais la plupart, ils sont plutôt dans une continuité. Et ça, c'est très humain, dire non, mais c'est un changement.
En fait, il y avait vraiment les deux, en fait. Déjà, ce qui se passait sur le marché de l'or était quand même inédit. C'est-à-dire que l'or, en France, était essentiellement sur du 18 carats. Les carats, c'est le pourcentage d'or dans un bijou. Et était en train de basculer vers le 9 carats. Et ça, c'était rapide, massif et complètement nouveau dans le marché. Et donc ça, enfin, quelque part, pour les gens qui prennent un peu de recul, c'était forcément quelque chose de structurel qui était en train de changer. Même si on pouvait se demander si ça allait retourner dans l'autre sens, mais il y avait d'autres marchés qui avaient vécu ça 2-3 ans avant, donc on voyait bien que non. Donc ça générait quand même des discussions en interne. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses qu'on voyait pas. Par exemple, sur le marché français, arrivaient au même moment des Swarovski, des Pandora, qui étaient plus, enfin, qui n'étaient pas aussi précieux, parce que voilà, nous on était joailliers, on vendait de l'or, etc. Donc dans l'imaginaire des équipes sur le terrain, j'entendais beaucoup dire non, ce ne sont pas nos concurrents, nous on fait autre chose. Voilà. Alors que bon, t'achètes un bijou, ouais, et le marché, les comportements clients étaient en train de changer. Et donc, c'est vrai que, enfin voilà, il y avait vraiment les deux dans l'entreprise. Et voilà, c'est une difficulté que je pense ont plein de dirigeants, plein d'entreprises. C'est la prise de, enfin, à quel moment la prise de conscience est vraiment là? Et en plus, à quel moment tu passes de la prise de conscience au fait de bouger? Parce que c'est pas parce que tu le sais que tu vas bouger, parce que tu dois quand même sortir de ta zone de confort. Enfin. Voilà, enfin, c'est 150 pages de bouquin pour sujet-là, clair. Tellement c'est compliqué, complexe et puis humain, en fait. Donc
en fait, tu crées ton équipe de direction. Soyons très, très simples et pragmatiques. C'est combien de personnes et ils représentent quel poste dans l'entreprise, en gros?
C'est six personnes, plus
ou moins. Sur combien de personnes dans l'entreprise?
Sur 300 personnes au global et une majorité d'équipes de vente, en fait, sur le terrain. D'accord. Au siège, une trentaine de personnes, à peu près.
D'accord. Donc, tu recrutes ou tu fais monter six personnes?
C'était moitié-moitié.
Ah ouais, d'accord, moitié-moitié.
Okay. Enfin, ça s'est fait comme ça, hein. C'était pas volontaire.
Et alors, comment tu composes ton équipe? T'as évidemment, on va appeler ça le fonctionnel ou l'opérationnel, c'est-à-dire, je suppose, un responsable du marketing, un responsable des finances, etc. etc. Et puis, il y a aussi... Comment on va dire? La typologie peut-être des gens, c'est-à-dire leur profil. Déjà, tu dis, tu fais une équipe 50-50. C'est une coïncidence, mais quand même, c'est intéressant. Des gens qui sont plutôt des anciens et des gens qui viennent de l'extérieur ou du groupe peut-être. Et à l'intérieur de ça, comment ça s'organise, je dirais, en termes de tempérament, je ne sais pas comment tu appelles ça, de typologie. Moi, j'appelle ça un profil ou une typologie.
Oui, il y a un chapitre du livre où je parle des francs-tireurs et des team-players, en fait. C'est vrai que j'ai... mais en fait, je ne les ai pas recrutés pour ça. Enfin, ça s'est fait comme ça, et du coup, je l'ai observé. Okay. Peut-être que demain, d'ailleurs, ça sera quelque chose que je regarderai un peu plus dans le détail. Mais il y avait à la fois certains d'entre eux, dont probablement je fais partie aussi, qui étaient dans l'équipe, dans le travail en commun, le partage, etc. Le temps aussi de réflexion avant d'action, c'est des fonctionnements, en fait, psychologiques différents. Ouais. Et puis, t'en as d'autres qui sont beaucoup plus fonceurs, qui aiment faire avant de... presque avant de réfléchir, je caricature un peu, même beaucoup, qui vont avancer et quelque part faire leur job à eux sans forcément se préoccuper des impacts que ça a sur les autres. Je pense que alors ça c'est au niveau du CODIR, mais c'est dans toute l'entreprise, il y a ce type de profil différent, et je pense qu'on a besoin des deux, en fait, pour avancer, parce que l'énergie hyper fonceuse, surtout en retournement, c'est quand même important dans une boîte. En même temps, un fonceur qui vérifie pas que les autres suivent derrière, il se retrouve tout seul au bout d'un moment. Donc, c'est aussi bien d'avoir dans l'équipe des gens qui vont compléter ça en faisant le lien et en mettant
l'harmonie de l'harmonie.
Ouais, une harmonie sur tout le reste. En même temps, le franc-tireur va dire non, on perd trop de temps, faut aller plus vite, etc. Donc, c'est un subtil équilibre entre les deux. Et je dirais que, faut en tant que patron, il faut jouer sur l'équilibre, et tant que les projets avancent, tant mieux. Moi, il m'est arrivé à certains moments où cette dissonance de fonctionnement, pour le coup, mettait en péril l'avancée des projets. C'est-à-dire que après, comme c'est des fonctionnements très différents entre les gens, on peut se comprendre et avancer. Quand on est en période de fort stress, ça peut aussi aller au clash. Ouais. Donc soit ça se gère et on avance comme ça, on en parle, on avance. Soit certaines situations, c'est arrivé trop difficile,
trop
humainement, en fait, exactement. Et du coup, à mettre en péril l'entreprise. Et là, il faut trouver d'autres solutions.
Chez Outils du Manager, on utilise beaucoup le modèle DISC, tu sais, dominant, influent, stable, consciencieux. Et ce que tu évoques me fait penser à ça, c'est-à-dire que quelqu'un, on va prendre des opposés, le dominant, c'est quelqu'un qui va vouloir avancer, qui va dire des choses comme on ne fait pas d'omelette sans casser deux, voilà, qui va tirer, etc., sans du tout se préoccuper des dommages collatéraux. Et puis, de l'autre côté, tu as le stable, qui est quelqu'un, au contraire, qui est plutôt partisan. Quand on lui parle de changement, il dit oui, mais dans la continuité, il faut qu'il y ait une harmonie dans l'équipe, etc. Et effectivement, je pense qu'une bonne équipe, c'est des gens qui ont les quatre... Enfin, à l'intérieur de l'équipe, que tu aies les quatre typologies, donc dominant, influent, stable, consciencieux. Par contre, en période de stress, ces profils-là, enfin, chacun des profils va se caricaturer. C'est-à-dire qu'il va aller encore plus dans son profil naturel. Et donc là, clairement, tout le jeu, c'est de réussir à avoir des gens des différents profils, parce que sinon, soit on n'avance pas, ou soit on casse l'équipe, donc il faut équilibrer. Mais en même temps, il faut gérer les relations entre les personnes, et souvent, c'est ce qui n'est pas évident.
Je dirais que la première chose, c'est de réussir à en parler à un moment donné, en fait. C'est-à-dire que quand on a compris que les autres fonctionnaient différemment, ça enlève une petite partie du stress déjà.
Tout à fait d'accord.
On prend un peu de recul par rapport à ça.
De passer de « on s'entend pas, il m'énerve, mais je le supporte pas », etc., à « ah tiens, il a pas le même profil que moi, moi j'ai ce profil-là, lui il a ce profil-là », et finalement,
exactement,
c'est normal ce qui est en train de se passer.
C'est normal qu'il fonctionne comme ça, c'est son mode de fonctionnement, et en plus ça a des avantages. Enfin voilà,
carrément.
C'est aussi de voir les points positifs de l'autre, quoi.
Bon. Oui, par
voilà,
exemple.
Après, ouais.
Ce truc-là que moi je ferai jamais parce que je suis incapable de le faire, je vais lui refiler parce que lui il saura le faire.
Pareil. Exactement. Et puis il y a une super urgence, ça va être lui parce que il va prendre son pied en travaillant hyper vite sur ce truc-là et quand moi je vais mettre 6 mois.
Tout à fait. Et toi, ce qui est marrant, c'est que tu dis que quand tu as recruté, tu n'avais pas forcément conscience de prendre ce mix, en fait. C'est finalement en ayant composé les équipes que tu t'es dit, tiens, dans l'équipe, lui, c'est plutôt quelqu'un qui est développeur, elle, c'est plutôt quelqu'un qui est stable ou qui est, je ne sais pas comment tu appelles ça, ou team player.
Ouais, en fait, j'ai recruté plutôt sur... Enfin, je pense deux choses. Enfin, d'une part, l'expertise,
oui.
Notamment sur l'image, dans un second temps sur l'offre. On n'avait pas cette expertise de façon suffisamment puissante, et donc j'avais besoin de ça. Voilà. Après, entre plusieurs candidats, évidemment, il y a l'énergie, il y a plein d'autres choses plus intuitive qui se passe en fait à deux candidats équivalents sur l'expertise. Il y a après les valeurs, l'énergie, et puis c'est vrai que comme j'avais conscience quand même qu'on avait dans une PME besoin de gens à la fois débrouillards et qui ont une énergie forte, j'ai forcément recruté des gens dont je pensais que à leur manière ils avaient les épaules pour.
Mais voilà, je pense qu'il faut avoir la conscience que tu ne peux pas recruter quelqu'un qui a tous les profils en même temps.
Non.
C'est-à-dire que quand tu recrutes, tu sais que ça va être plutôt ce que tu appelles un team player ou un franc-tireur quand même à la base. Je pense
seulement dans l'équipe entre soi, mais par rapport à moi, il y a
absolument
aussi cette conscience de... mon mode de fonctionnement à moi, en général, les patrons se pensent qu'ils sont parfaits, que donc c'est pas forcément un truc à faire. Mais voilà, moi je sais que comme je te disais tout à l'heure, plutôt dans les changements en douceur, et avoir dans mon équipe des gens qui sont dans une énergie, j'appelle un peu plus rouge, plus fonceuse,
dominant,
qui vont pousser, voilà. Ouais, non, ça c'est moi le dominant. Mais... J'aime pas du tout ce terme, c'est très masculin.
Oui, c'est
fonceur,
vrai.
Fonceur, c'est mieux fonceur.
Ouais.
Voilà, je sais que c'est des gens qui vont aller un peu plus vite, qui vont me pousser un peu dans mes retranchements quand je tarde un peu à prendre une décision, enfin, qui vont compléter sur certains aspects et que moi je vais réfréner aussi parfois quand ça colle pas avec là où va l'entreprise. Voilà. Donc il y a aussi cette complémentarité par rapport au leader, quoi.
Je suis d'accord, en fait, la première personne à analyser quand tu composes une équipe, c'est toi. C'est dire, mais c'est quoi mon profil? Et le plus beau cadeau que tu puisses faire à tes collaborateurs, c'est donner ton mode d'emploi. De dire, moi, je suis plutôt, je vais utiliser rouge, donc ça veut dire que je suis quelqu'un qui va foncer, etc. Mais du coup, ce que j'attends de vous, c'est que vous bordiez derrière ce que je fais, que vous soyez capable de vous opposer vraiment à moi en disant, non, ça on fait pas, boss. Parce que, en général, le rouge, il accepte ça. C'est-à-dire qu'il accepte les confrontations assez fortes.
etc. Et c'est vrai que c'est un cadeau à faire aux collaborateurs, déjà de donner son profil à soi. Puis ça les encourage, eux aussi, à essayer de découvrir le leur.
Alors ça, j'avais pas été jusque-là, honnêtement. Et je pense que je me connaissais pas aussi bien que je me connais aujourd'hui. Enfin, c'est aussi, bon, voilà, enfin, quand j'ai eu le temps de me reposer sur tout ça et de prendre du recul et tout. Enfin, voilà, c'est une des périodes aussi où tu te poses forcément des questions sur toi-même, et que tu apprends des choses, donc c'est venu après. Si c'était à refaire, je le ferais, ouais, ça c'est sûr.
Et alors, il y a une typologie qui m'intéresse aussi dans les personnes que tu dis, c'est ce que tu appelles les créateurs de confiance.
Ouais, alors c'est pas moi qui appelle ça comme ça, en fait, c'est Jean-Paul Bailly qui était directeur de La Poste, hein, qui a mis en place des énormes changements à La Poste, et que j'avais entendu à une conférence et qui ça m'avait vraiment beaucoup interpellée et ça m'est resté. Il demandait à ses équipes, enfin à ses cadres en tout cas, d'être des créateurs de confiance. Donc pas forcément des gens qui vont diriger un peu à l'ancienne, mais des gens qui vont être capables de créer le climat de confiance qui donne envie aux gens de se donner, de se libérer, de prendre des initiatives et de croire aussi en l'avenir de la boîte. Parce que forcément, enfin, y a, quand on est face à des situations de chiffre d'affaires difficiles, plus on a beaucoup d'équipes de vente, dont une partie du salaire était liée à la réalisation du chiffre d'affaires. Donc, quand ça t'impacte quotidiennement sur des salaires qui sont en plus pas très élevés, tu es en droit de remettre en cause la confiance que tu as dans là où va la boîte. Et voilà. Et donc, ce rôle de développement de la confiance en période de changement me parlait beaucoup. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et là aussi, je pense que si c'était à refaire, j'irais beaucoup plus loin sur ces sujets-là. À un moment donné, dans le livre, je me suis rendu compte, mais vraiment a posteriori, que à la fois on essayait d'inspirer confiance par tout ce qu'on disait, par beaucoup de dialogues, beaucoup d'explications. Voilà, c'était beaucoup toujours dans le mental. Et en même temps, comme il y avait tous ces changements, comme c'était assez stressant, on mettait en place un nombre d'indicateurs stratosphériques sur toute l'activité. On disait aux gens, vous êtes autonome dans vos boutiques, etc. Mais en même temps, on n'arrêtait pas de leur demander des reportings sur tous les sujets. Quand j'ai pris un temps de recul, je me suis dit, voilà, il y a quand même un truc qui n'allait pas, quoi. C'est-à-dire que il y a la confiance que tu peux générer par tes paroles et tes actes, mais il y a aussi le climat de confiance et l'exemplarité que tu vas avoir sur ces sujets-là, en fait.
La confiance que tu donnes. En fait, la confiance, il y a vraiment trois directions. C'est j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans le monde et j'ai confiance dans les autres. Et souvent, on n'arrive pas à adresser. C'est-à-dire que c'est exactement ce que tu dis. On met des reportings de tous les côtés. On dit à la personne maintenant, t'es autonome. Sauf qu'on lui a mis tellement de carcans, tellement d'obligations que finalement, sur quoi on lui fait confiance réellement.
Exactement. Voilà. Et je pense que c'est vraiment une question à se poser. C'est où est la part de liberté. Enfin, qu'est-ce que je veux absolument, contrôler ou en tout cas cadrer, et quelle est la part de liberté que je donne. Mais après, il y a plein de bouquins, pour le coup, plus axés sur ces sujets-là, sur l'entreprise libérée, sur l'autonomie.
Moi, j'aime bien, je ne sais pas si tu as déjà lu les livres de Nassim Taleb sur l'antifragilité, et où il dit, mais plus tu bureaucratises ton entreprise, plus tu crois la rendre robuste, et en fait, plus tu la rends fragile. Parce qu'elle est plus capable de s'adapter, elle est plus souple, etc. Et l'autre aspect qui est intéressant dans ton livre, quand tu parles de créateur de confiance, c'est cette idée que dans une entreprise, en fait, on a des relais qui peuvent générer qu'il faut absolument, je dirais, convertir à notre cause. Et ces relais, c'est pas forcément les relais managériaux que tout le monde connaît. C'est pas forcément la structure hiérarchique. Ça peut être des influenceurs internes dans l'entreprise, qui n'ont pas du tout envie d'être dans la hiérarchie, qui n'ont pas du tout envie de prendre des postes de direction, et qui sont absolument cruciaux pour faire évoluer les mentalités de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment intéressant.
Ouais. En fait, c'est tout ce qu'on ne voit pas sur un organigramme, en fait.
Exactement.
Alors, nous, on était dans un système de réseau de boutiques, en fait. Et finalement, la boutique, les équipes d'une boutique voyaient peut-être l'animateur réseau, le directeur des ventes, une fois par semaine, par mois. Enfin, voilà, ça dépendait des configurations. On pouvait l'avoir au téléphone plus souvent. Mais ils voyaient tous les jours le coursier, appeler la compta, appeler les équipes produits de l'offre, la logistique. Enfin, il y avait des gens qui finalement étaient à la fois rattachés au siège, mais finalement plus souvent présents sur au contact. Même la standardiste du siège, finalement, voilà, avait plus de, autant d'impact et de pouvoir d'influence que ne pouvaient l'avoir des gens dont c'était a priori le métier. Et du coup, le message qui passe, ce qu'ils peuvent raconter, enfin, on peut pas tout contrôler, mais ça veut dire que c'est aussi ces personnes qui ont ces rôles de relais, idéalement, il faut quand même en faire des alliés, s'assurer qu'eux-mêmes ont compris où allait l'entreprise, le sens des décisions. Et puis, dans l'autre sens, comme c'est des gens qui sont beaucoup au contact du terrain, des clients, parfois des clients, pas toujours des clients, mais parfois, c'est aussi une source d'information hyper intéressante, quoi, pour les gens qui sont au siège.
Qui sont des agents d'influence, en fait, quelque ouais, part.
Exactement, exactement.
Alors, je ne sais pas si on a abordé la stratégie des alliés dans ce qu'on a dit.
Je ne crois pas qu'on en ait parlé.
Non. Et c'est intéressant comme, je trouvais que c'est intéressant, comme point de vue.
Ouais, en fait, c'est intéressant parce que, enfin, c'est vrai que ça se regarde aussi au niveau de l'entreprise globale. Alors, stratégie des alliés, pour les auditeurs qui connaîtraient pas, c'est une stratégie qui s'utilise plutôt en temps de guerre. Ouais. voilà, c'est venu de là. Consiste en fait à répartir les forces en présence en quatre catégories et à adapter ensuite son comportement et la façon de faire par rapport à la catégorie dans laquelle la personne se situe. Pour donner des exemples concrets, donc il y a les alliés, que la stratégie porte son nom. Les alliés, c'est les gens qui, dans l'entreprise, quel que soit leur poste, sont quelque part déjà convaincus du bien fondé de la stratégie qui est menée, de là où va aller la boîte, sont des ambassadeurs, en fait. En termes de comportement, ça veut dire que quand on a la chance d'avoir des gens comme ça dans les équipes, on va leur donner la parole un peu plus qu'aux autres. On va peut-être leur confier des missions si on a un truc, un quick win ou une action à mettre en place. On veut absolument que ça réussisse. C'est mieux de donner un allié dont on est sûr qu'il va être motivé à 100% pour que ça marche et qui ensuite va être l'ambassadeur de ça que de le donner à... Alors, il y a une case qui s'appelle les réfractaires. Je crois que c'est pas un mot non plus que j'aime tellement, mais en fait, c'est ça. À l'opposé des alliés, il y a des gens qui sont vraiment absolument opposés à la stratégie. Et du coup, si vous avez absolument besoin qu'un projet avance et fonctionne, c'est pas à eux que vous allez le confier en priorité. Eux, en revanche, il faut quand même les écouter parce que quelqu'un qui est réfractaire, c'est pas forcément qu'il est grognon de nature, mais c'est que il perçoit peut-être des freins qui sont réels au changement et du coup qu'il faut quand même traiter et lever pour que le changement puisse se passer. Mais il faut faire attention, et ça je l'ai constaté, à ne pas non plus leur donner trop la parole. C'est-à-dire que, et moi la première, quand j'entendais un réfractaire, moi je crois beaucoup à l'argumentation, à force de conviction, etc. Et donc j'étais toujours tentée de passer des heures à essayer d'expliquer, à faire changer la personne d'avis.
Oui, et le risque c'est que tu passes plus de temps avec les réfractaires qu'avec les alliés, en envoyant inconsciemment le message... si vous voulez de mon temps, soyez réfractaire. Or, c'est pas ce que tu veux. T'as plutôt envie de montrer que.
Ouais. Il y a ça, c'est vrai. Il y a l'énergie que tu y mets, alors qu'il vaut mieux mettre de l'énergie là où ça fonctionne que là où ça bloque.
C'est clair.
Et puis il y a le temps de parole que tu leur donnes et qui finalement se répercute dans l'entreprise et qui peut comme tu vas avoir peut-être du mal à les faire changer d'avis, c'est presque disproportionné par rapport à la place qu'ils ont dans l'entreprise. Et ça peut donner une image de, il y a plein de gens réfractaires, c'est des gros problèmes. Alors que si tu donnes le juste temps et le juste temps de parole, ça va diminuer l'effet des rétractaires. Après, l'idée, c'est effectivement de les faire basculer, peut-être pas forcément dans la case des alliés immédiatement, mais
En fait, ce qui est pas mal, c'est de leur donner un rôle, de leur dire, bon, on a compris, enfin, même si on ne le formule pas de cette manière, de dire, ce que tu dis est très utile, on va le pousser, mais de délimiter le champ, c'est-à-dire... nous, je sais que on avait eu dans un podcast passé cet outil qu'on appelait l'anti-brainstorming. Ça veut pas dire grand chose, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a un projet, on a décidé de le faire. Donc, on n'est plus au moment où on décide, on a décidé. Mais évidemment, t'as tes réfractaires, t'as les gens qui avaient proposé un autre projet qu'on n'a pas accepté ou qui voulaient pas qu'il y ait de projet. Enfin, bref, pour diverses raisons. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait bon, ok. On va maintenant lister sur cette feuille tout ce qui pourrait ne pas marcher. Et donc, on oblige quelque part les réfractaires à se dévoiler, à dire non, mais moi, je ne suis pas d'accord pour tel. Mais on ne reste pas sur le je ne suis pas d'accord. C'est je ne suis pas d'accord parce qu'il y a tel risque, tel risque, tel risque. Et ensuite, on les fait travailler sur et comment on peut réduire ce risque. Et du coup, quelque part, ils ont leur rôle. C'est... Évidemment, on n'empêchera jamais quelqu'un qui est absolument opposé. Et qui est à la limite du sabotage d'un projet, de le faire en catimini, etc. Et je pense que pour ces gens-là, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de place dans l'entreprise. Mais en général, c'est pas ça. Quelqu'un qui est réfractaire, c'est surtout quelqu'un qui catalyse des peurs ou qui a un intérêt personnel, qui est pas tout à... et il faut le gérer quand même.
Ou qui a vraiment vu un problème, hein. C'est-à-dire que la stratégie n'est pas forcément parfaite non plus, il peut juste avoir détecté un vrai bug.
Jamais, et d'ailleurs, c'est souvent ça, c'est que la peur est souvent supérieure à l'attrait, c'est-à-dire que quelqu'un qui tout d'un coup dit « non mais ça va pas marcher parce que telle raison » va beaucoup l'écouter en se disant « bah il a trouvé... » Et là, il faut savoir gérer ça, effectivement.
Exactement. En fait, le fait même d'être écouté, et ça c'est très humain en fait, fait souvent, mais c'est comme quand quelqu'un est très en colère en fait, tu t'assois avec lui, tu dis pourquoi t'es en colère, ben, la colère elle s'en va très rapidement, en général, sauf si c'est vraiment très grave, mais ça c'est...
Faut vider le truc quoi, c'était ça l'anti-brainstorming, c'est au lieu que ça se passe, parce qu'en général ces gens-là... Comme tu le dis, on n'a pas envie de leur donner trop la parole parce que c'est très destructeur. Mais du coup, mais la parole, ils la prendront quand tu ne seras pas là. Donc, le fait de dire, on va tout mettre sur une feuille, on va... déjà, ça rassure en général. Même ces gens-là, ça les rassure. C'est-à-dire, on m'a quand même entendu.
C'est ça. Moi, j'appelais ça le test d'alignement, en fait, avec mon équipe. C'est se dire, on le faisait avec le CODIR, on incitait aussi toutes les équipes dans la boîte à le faire régulièrement en fonction des sujets. Quand quelqu'un présentait, par exemple, la politique d'un des secteurs ou un nouveau projet, on faisait un genre de tour de table en disant, qu'est-ce qui m'a fait vibrer? Il y a quand même des chemins. Qu'est-ce que je trouve super? Qu'est-ce qui, à l'inverse, qu'est-ce que je comprends pas ou avec quoi je suis pas d'accord? Et ça permettait de purger un certain nombre de freins et puis de rectifier éventuellement.
Tout à fait, je suis d'accord. C'est un moyen de faire s'exprimer les peurs et effectivement.
Voilà, et de préciser le projet et de le rendre encore plus percutant.
Et un livre qui est pas mal sur ça, qui est un peu anglo-saxon, je veux dire, je te raconte pas le sort qui est fait aux réfractaires, je suis pas tout à fait... il s'appelle A Sense of Urgency de Kotter, où vraiment il explique bien comment une entreprise doit se fonder quand même sur les personnes qui... Alors, sense of urgency, ça veut dire on a conscience de l'environnement et on a conscience que on a un challenge, mais comment on fait pour ne pas affoler les gens et aller mobiliser dans la direction du challenge. Et c'est assez bien fait, effectivement, ça met les gens dans des cases, et c'est ce que tu dis aussi dans le livre, et c'est intéressant. L'histoire, c'est pas de dire cette personne, elle est réfractaire, elle le sera toujours. C'est de dire aujourd'hui, elle est dans cette case-là, quand même, et d'en avoir conscience. Et cette approche-là de la stratégie des alliés dont tu parles et de la stratégie de l'alignement dont tu parles un petit peu après est vraiment intéressante.
Et je dirais que, juste pour finir, il y a deux. Pour moi, il y a quand même deux temps. Il y a le temps où tu écoutes, t'entends, tu débats. Une fois que tu as pris la décision et que tu dis bah, c'est ça qu'il faut pour la boîte, là pour le coup, pour moi, on arrête de discuter et on fait. Ouais. Et là, voilà, tu rentres, si tu ne le fais pas, tu rentres plutôt dans la faute ou dans le comportement qui n'est plus adéquat pour l'entreprise.
Tout à fait.
Si tu as été entendu correctement, bah, la décision ne te convient peut-être pas, mais il faut que tu le fasses. Quoi.
Oui, tout à fait. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi que la décision, c'est phasé. Hein. Il y a la discussion, il y a la prise de décision où on explique sa décision. Souvent, à ce moment-là, le test d'alignement, il est intéressant, puisque la décision est prise. Donc, les gens, maintenant, peuvent se positionner en disant « bah ouais, mais moi, finalement, c'était parce que… » Et il y a de cette discussion. Et après, effectivement, la règle qui doit être explicite, c'est, après la réunion, de toute façon, tout le monde contribue.
Bien sûr.
Et ne pas contribuer, c'est une faute grave. Et continuer à parler d'un plan B, même, c'est de l'éclair. Ok, c'est super intéressant. Ce qui m'intéresse aussi dans ton expérience, c'est que tu as dû manager dans un contexte où les moyens étaient limités, à la fois au niveau des investissements, mais aussi à la fois de la masse salariale, etc. Est-ce que tu peux nous donner... Parce que c'est aujourd'hui quelque chose qui revient souvent sur le forum, c'est j'ai un changement à mener, mais on ne m'a pas donné de moyens. Hein. Donc, je ne peux
je
pas
crois que dans n'importe quelle activité, personne ne va te dire qu'il a assez de moyens pour faire tout à fait
ce que j'allais dire.
C'est une vérité universelle. ouais, bien sûr, il y a des choses que j'ai... que j'ai appris, mais entre le savoir et le faire pour de vrai, c'est souvent difficile. Il y a un truc qu'on te dit souvent, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'argent pour faire des choses et faire certains changements. Et je dirais que la première chose, même si ça peut paraître tout à fait basique, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux déjà changer sans que ça coûte ? Ou quelles sont les économies que je peux faire et réallouer là où ça me semble plus important ? C'est un premier truc un peu de base, mais comme quand tu gères ton budget personnel, en fait. Il y a une autre chose que j'ai appris, expérimenté, pas toujours fait bien, mais qui est qui est essentielle, c'est, je pense, c'est de se faire moins, mais mieux, de choisir, enfin, voilà, là aussi, c'est des trucs qui, comment dire, peuvent sembler tout à fait basiques, mais en fait à mettre en œuvre c'est compliqué. Dans le bouquin je cite l'exemple de rénovation de magasin, en fait, où à un moment donné, on voulait changer l'image de la marque et rénover les boutiques forcément le plus vite possible avec pas beaucoup d'argent. Et donc au départ j'étais partie sur on va faire un petit lifting, on change la moquette, on donne un coup de peinture, et puis ça va donner un petit coup de neuf, comme ça on va pouvoir faire 20 boutiques avec le même budget sans tout refaire du sol au plafond, et vous inquiétez pas, ça va être génial. En gros, voilà. Sauf qu'en fait, on l'a fait sur une dizaine de magasins. On a fait une vague de rénovation comme ça. Et je l'avais vu faire dans des marques de mode, en fait. Là, pour le coup, c'est je pense que j'ai pêché quelque part par simplification. Il y a des marques de confection où ça peut tout à fait se faire, en fait. C'est-à-dire que quand t'as que des portants dans ton magasin, tu changes la moquette et tu mets un joli papier peint et ça fait le job. Ouais. Quand t'es sur des vitrines de bijouterie et qu'elles sont un peu anciennes, t'as beau avoir changé la moquette et la peinture, franchement, ça résout pas grand-chose et le client ne voit pas grand-chose dans ce que t'as fait. Donc, au final, t'as dépensé peu d'argent sur plein de magasins, mais finalement, ça fait quand même une somme, sans qu'il y ait un impact visible pour le client. J'ai changé la façon de faire, moins de magasins, mais vraiment bien, avec un effet waouh pour le client et donc du chiffre à la clé.
D'accord.
Et du coup, y a deux règles de ça, c'est moins mais mieux, et puis quelque chose qui se voit pour le client.
Ouais.
Parce que là aussi, on peut, et surtout, je dirais, peut-être pas quand t'es entrepreneur et que tu as commencé from scratch avec un petit rouleau de scotch, mais quand tu viens d'un grand groupe et que tu es quelque part habitué à un peu plus de moyens et à faire les choses très bien du début à la fin, il y a cette tentation de faire de faire tout bien, d'être parfait sur tous les trucs. Et alors qu'en fait, il y a une lecture beaucoup plus rapide de OK, dans tout ce que j'ai à faire, qu'est-ce que le client va vraiment voir ?
Le levier, en fait.
Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui lui apporte de la valeur et qu'est-ce qui a une chance de générer du chiffre et un achat supplémentaire derrière ? Ouais. Évidemment, ça, c'est du bon sens commercial, en fait. Mais parfois, tu peux être tenté de te dire, oui, si je fais tout bien, le client va le voir et ça va être très bien. En fait, non, c'est qu'est-ce qui lui apporte vraiment de la valeur ? C'est un critère, en tout cas, pour faire le choix.
Ouais, ouais.
Et l'autre
intéressant
critère,
aussi dans ton approche, c'est que tu as essayé et assez vite, tu as changé ton fusil d'épaule. C'est aussi intéressant dans l'approche de ne pas rester, de dire je continue puisque j'ai commencé. J'arrête l'investissement là parce qu'en fait, ça ne donne pas. Donc, je change mon fusil d'épaule.
C'est ça. Et voilà, ça c'est une règle personnelle en fait. Je pense que je n'ai pas. Un ego trop surdimensionné, ouais. Un petit peu quand même, mais pas trop.
Il en faut. Hein.
Ouais, il en faut, sinon t'arrives pas là. Mais reconnaître que c'est pas bien. Enfin voilà, il faut le faire parce que quand c'est l'intérêt de la boîte, de toute façon, tes erreurs, elles se voient à un moment donné, quoi. Donc vaut mieux rectifier immédiatement et faire les choses bien derrière.
Donc finalement, ce que vous avez fait, c'est que vous avez changé votre stratégie. Vous avez transformer très très fort un magasin.
Ouais, exactement. Moins de boutiques et de fond en comble. Et je dirais que non seulement on a fait ça, mais quand on l'a fait, on s'est aussi assuré qu'on avait les moyens pour communiquer autour, faire une belle inauguration, faire changer des choses dans la boutique au fil du temps. C'est-à-dire non seulement investir à un instant T, mais faire en sorte que cet investissement n'en tire vraiment, vraiment le maximum. Mmh. Et c'est ça, moins mais mieux, c'est-à-dire que t'en fais moins parce que t'as moins d'argent, mais là où tu mets l'argent, tu le fais vraiment à fond, quoi. Mmh. Et je donne un autre exemple dans le livre, c'est sur les collections. Mmh. Parce que le repositionnement provoquer le fait qu'on avait besoin de changer beaucoup l'offre et de renouveler plein de collections. Et du coup, il y a eu un moment où on sortait des nouvelles collections tout le temps sans avoir le temps de les installer, de former bien les équipes pour qu'elles puissent les vendre, etc. Et en fait, une fois que le gros du changement a été fait, on s'est dit, OK, même si ça génère de l'excitation de sortir plein de collections, non, on va en faire mieux, moins, mais mieux. Mais les lancements qu'on va faire, on va vraiment les faire hyper bien, avec le bon merchandising, la bonne com, on va faire réagir les équipes et faire même participer avant à la construction de la collection, on va impliquer les clients, écouter le storytelling, enfin voilà, on fait de la com, enfin voilà, des influenceuses, etc. Enfin bref, on le travaille beaucoup mieux et du coup, l'effet était incroyable, c'est-à-dire que ça n'avait rien à voir en termes de, à la fois de d'impact sur le chiffre, mais aussi de contentement des équipes, c'est-à-dire que quand tu es tout le temps sur 150 000 projets, un peu bâclés, t'es toujours dans une sorte de course. Alors ça ne veut pas dire qu'on a baissé le rythme, mais t'es plus focus sur un truc et du coup t'as un enthousiasme qui n'a rien à voir en fait.
Ouais, c'est un peu l'approche aussi 20-80 qu'on peut avoir en se disant, mais c'est quoi mes produits qui marchent le mieux? Je vais pousser ceux-là, puisqu'ils marchent déjà mieux, mais les pousser et mettre mon énergie sur ces produits-là plutôt que d'essayer de traîner. Et d'ailleurs, en management, tu peux avoir ce même raisonnement dont on parlait tout à l'heure.
Ouais, exactement.
Sans être caricatural, mais en se disant, mais moi, je mets les moyens sur les gens qui me font avancer, et sur les produits, c'est pareil, et sur les boutiques, c'est pareil, et sur les actions commerciales, c'est pareil, etc.
Ouais.
En plus, que tu génères probablement comme valeur ajoutée là-dessus, te permettra probablement de financer ta croissance future ailleurs.
Exactement, et puis de redonner de la confiance aussi.
Carrément.
Tu rentres dans un cercle vertueux.
Et à un moment, tu abordes un sujet qui est toujours un petit peu délicat, qui est celui des salaires. Tu dis, je crois, j'ai pas la phrase, j'ai à peu près le sens en tête, c'est de dire, faut, même si on est dans une période où c'est difficile, etc., il y a quand même, je sais plus comment t'appelles ça, c'est pas le minimum vital, mais il faut quand même savoir investir au niveau salaire pour quand même que les gens restent motivés, restent dans le truc.
Ouais, c'est ce que j'appelle les besoins primaires, en fait.
Les besoins primaires,
c'est pas une expression très jolie, mais je trouve que ça exprime bien ce que ça veut dire, quoi. C'est que, en fait, c'est vrai que comme on a passé des années de chiffres quand même difficiles, nos équipes de vente avaient une partie de leur rémunération liée à la réalisation, et en l'occurrence à la non-réalisation de chiffre d'affaires, du coup, étaient impactées dans leur quotidien, de façon importante. Et en fait, on s'est retrouvé aussi du coup avec des turnovers importants, parce que quand les gens gagnent plus assez ou pour vivre suffisamment bien, ils vont tourner. Donc on a eu des turnovers autour de 40%, ce qui est souvent le cas, retail, de centres commerciaux, région parisienne, c'est beaucoup. C'est pas la norme nationale, on est d'accord. Okay. Mais en même temps, c'était un vrai sujet parce que, contrairement à des marques de biens de consommation courante, quand on est sur de la joaillerie, un vendeur doit être formé, ça demande de l'expertise, donc il y a un gros investissement sur l'expertise et des vendeurs, et avoir ce type de turnover sur le métier de la joaillerie, c'est une catastrophe. Mmh. Et donc ça, pour moi, ça faisait partie des coûts cachés, en fait, du turnover. Donc, tu dis très bien.
Je suis content. Ça, c'est un de mes chevaux de bataille. Je suis content que tu le dises. Le turnover, c'est un coût caché. C'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un quitte l'entreprise et que vous devez le remplacer, parfois il faut laisser les gens partir, mais que vous devez le remplacer, ça veut dire de la friction de communication. Tout à l'heure, on parlait des tempéraments qui doivent s'accorder dans une équipe. Le fait qu'une équipe soit depuis longtemps ensemble, vous vous rendez pas compte du tout des micro-ajustements que tout le monde a fait, qui fait que cette équipe fonctionne bien. Et parfois, quand il y a du turnover dans ces équipes, ça les déséquilibre. Et c'est un coût caché. C'est-à-dire que c'est très, très dur à évaluer, mais c'est un vrai sujet. Ouais. Je suis d'accord.
Et quand je rajoute le point d'expertise dont je te parlais tout à l'heure, quand t'as un vendeur qui sait plus expliquer la qualité des diamants ou de l'or ou des pierres précieuses à ses clients, c'est directement du chiffre d'affaires en moins, en fait.
C'est la courbe d'apprentissage.
Mais ça, pour être tout à fait honnête, c'est quand même quelque chose que j'ai appris avec le temps. C'est-à-dire que si j'ai des anciennes équipes qui écoutent, ils vont se dire, j'ai pas connu la même DG, hein. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, je me disais, attends, l'argent ne rentre pas dans la caisse, je peux pas distribuer de l'argent qui ne rentre pas, en fait. Et ça, c'est aussi du bon sens de gestion où tu te dis, on va bosser, on va faire du chiffre d'affaires et là, vous aurez vos primes, et on va rentrer dans un cercle vertueux. Ouais. Voilà. Et donc, moi, j'étais vraiment, il y a deux écoles, hein, et j'étais vraiment de ce côté-là, en fait, en disant, je peux pas donner. Et puis, je voyais les résultats de la boîte en dernière ligne, tu te dis, tu peux pas distribuer de l'argent que tu n'as pas, en fait. Mmh. Sauf que le résultat de ça, c'est les équipes qui ont vraiment des rémunérations très ric-rac, des gens que tu ne gardes pas, qui n'ont plus envie, et donc tous ces coûts cachés. Ouais. Si c'était à refaire, et c'est des choses qu'on a rectifiées après progressivement aussi, parce que quand t'es patron, t'es un peu radin quand même de temps en temps. Donc,
dans un contexte de retournement.
Ouais. Voilà, exactement. Et malgré tout ça, les frais de personnel étaient quand même le premier poste, quoi. Donc, c'était pas rien non plus. Je pense, j'en ai quand même tiré plusieurs enseignements. D'abord, c'est qu'il y a des besoins primaires qu'il faut quand même faire. Nous, on avait par exemple le sujet des tenues, c'est-à-dire que on avait mis en place des tenues pour les équipes et la première vague de tenues qu'on a faite était pas très confortable, enfin c'était pas bien, ça c'est quand même, enfin tu vois, être habillé correctement pour travailler, c'est un besoin primaire. Donc ça c'est quelque chose qu'on a rectifié ensuite, et c'était comme si on avait distribué des primes, en fait les gens étaient super contents. Ouais. Donc voilà, il y a quand même des choses un peu basiques comme ça. J'ai appris que qu'il y a quand même des rendez-vous qu'il faut pas louper. Pendant les années Guérin, on a eu les gilets jaunes sur tout un Noël, et on a décidé, enfin ça je l'ai défendu auprès du groupe qui avait dit OK, de distribuer quand même. On a eu un moment où on pouvait distribuer une prime à fin décembre. On l'a fait malgré notre résultat déficitaire, en disant, voilà, on a quand même, et les équipes avaient bossé beaucoup, malgré tout le contexte au mois de décembre, on a quand même donné une prime. Et en fait, et je le regrette pas du tout, parce qu'on a eu des effets, pour le coup, de reconnaissance et de motivation sur tous les mois qui ont suivi. On a senti qu'on avait passé une, comme un cap dans la confiance, en fait, où tu te dis, OK, enfin, voilà, c'est dur, vous le savez, mais là, on a compris qu'il y avait un vrai sujet et donc on va dans votre sens. Donc, il y a des rendez-vous comme ça, enfin, voilà, où tu as des crises. Bon, je pense que moi, j'ai quitté Guérin avant le Covid, mais certainement, le Covid a été voilà, une occasion de montrer que l'humain était passé avant le reste. Donc, il y a ces rendez-vous à ne pas rater. Et puis, ce qu'on n'a pas fait chez Guérin, et là, pour le coup, enfin, je pense qu'on est aujourd'hui, au XXIe siècle, obligé de regarder ces sujets-là, c'est le sujet du partage de la valeur, ouais. Et de, OK, on perd de l'argent à un instant T, mais qu'est-ce qui va se passer quand on va en gagner ? Et puis, entre maintenant où on en perd et le moment où on n'en perdra plus, il y a quand même des étapes. Si on réussit ensemble ces étapes, qu'est-ce qui se passe pour la boîte et qu'est-ce qui se passe pour vous, en fait ? Et ça, je l'ai pas fait, en tout cas pas de façon aussi claire. Et franchement, enfin, je pense que c'est quelque chose que je referai. Enfin, j'espère. J'aurais voilà. Marge de manœuvre pour faire ça, quoi.
C'est partage la valeur. Et puis aussi dire quoi, que c'est pas forcément le salaire. Tu évoquais les tenues. Moi, je pense aussi, par exemple. Quelqu'un qui est sur la route qui passe 3 heures par jour dans sa voiture ou des choses comme ça, c'est pas forcément simplement au niveau du revenu, mais c'est aussi du confort de travail, etc. Je suis d'accord. Et puis il y a une autre question peut-être qu'on peut aussi se poser. Quand on est manager, en général, on regarde le résultat, on rémunère le résultat, et souvent le salarié, lui, ce qu'il perçoit, c'est l'effort. Parfois il a fait un effort et il n'y a pas eu de résultat, et pourtant il a fait l'effort. Donc, c'est une question aussi qu'on peut se poser au moment de l'entretien de fin d'année. Nous, on a tendance à regarder les résultats, et c'est très bien, parce que c'est le job d'un directeur, d'un manager, etc. Mais toujours aussi savoir s'il y a un effort qui a été fait. Quelquefois, tu fais un effort, tu fais tout ce que tu peux, tu fais des heures, et finalement, ça ne fonctionne pas, parce que ça ne fonctionne pas à tous les coups, et on te dit « Ouais, mais il n'y a pas eu de résultat, donc je ne peux pas te rémunérer.
» C'est vrai que alors, nous, le gros des équipes était sur une rémunération variable liée au chiffre d'affaires. On n'avait pas été jusqu'à mettre dans leur variable du qualitatif, en fait, ce qu'on aurait pu faire. Et là aussi, si c'était à refaire, je me poserais la question.
Et puis, tu as tes agents d'influence, par exemple. Eux, il faut qu'ils soient dans un confort réel.
Quoi. C'est vrai. Nous, on avait on a contourné un peu ce sujet-là, en fait. Avec ce que j'ai trouvé être un quick win, et là aussi c'est une astuce que je trouve intéressante, quand on a parce qu'on a un système, on avait un système de rémunération globale sur le chiffre d'affaires réalisé, qui pouvait se faire ou ne pas se faire avec une partie individuelle et une partie collective. On a un peu contourné le problème d'avoir des mois sans chiffre d'affaires par des challenges qu'on allait axer en fait sur certaines catégories de produits qui nous semblaient particulièrement stratégiques. Par exemple, quand on faisait un lancement dont je parlais tout à l'heure, les lancements hyper importants, tu mets un challenge lié à ça. Là, pour le coup, il n'y a pas d'excuse. C'est-à-dire que, enfin, quelque part, que le chiffre global de la boutique se fasse ou pas, tu peux orienter tes clients, tu peux travailler, faire des efforts et du coup être rémunéré en fonction de ce challenge-là et quelque part avoir une prime même si le global du chiffre d'affaires ne se réalise pas. Et là, tu rentres quand même dans un message plus positif et dans un cercle vertueux parce que tu as mis l'énergie de tes équipes là où tu voulais que la stratégie s'oriente. Et comme forcément ça marche, du coup, tu rentres dans le cercle vertueux de « Ah oui, c'est vrai, ça marche, cette nouvelle stratégie. »
Oui, tu valides.
Tu rentres là-dedans. Et quelque part, tu as aussi indirectement, tu n'as pas distribué de l'argent variable alors que ton chiffre ne se fait pas. Tu l'as distribué là où il a un sens stratégique, en fait.
Absolument. C'est l'alignement, c'est l'alignement dont on parlait tout à l'heure. Quoi.
Exactement.
Il faut que ce soit cohérent, en fait, dans ce que
voilà, en fait, j'étais tout à fait monomaniaque sur la cohérence.
Est-ce que tu peux nous dire un mot? Alors, tu vois, ça, c'est un sujet sur lequel je suis pas forcément à l'aise, sur la vision, la mission et l'opérationnel. Pourquoi je dis ça? C'est parce que on a beaucoup de discours, et tu parles d'ailleurs de Start with Why, de Sinek, de Simon Sinek, je sais pas comment on dit. Alors, je te donne mon angle là-dessus, comme ça on peut aller directement à l'essentiel. En général, je trouve qu'on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de la vision, dans les bouquins, etc., etc., mais on parle peu du lien entre la vision et l'opérationnel. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une vision, éventuellement d'y passer un temps fou. Moi, je suis assez pragmatique, en tant que chef d'entreprise, ce qui m'intéresse, c'est, oui, mais quel est le comportement qu'on va réussir à obtenir sur le terrain ? Parce que très souvent, ce que j'observe dans la majorité des cas, quand il y a une vision d'entreprise qui est affichée partout, c'est le décalage énorme entre ce qui est affiché et ce qui se passe réellement dans l'entreprise. C'est-à-dire l'expérience collaborateur, l'expérience client, ce que font les gens en réalité, est-ce qu'ils ont tous compris de la vision, qui en général sont des choses différentes. Mmh. Est-ce que tu peux... C'est...
Ouais, ouais.
Mon expérience là-dessus, c'est-à-dire quel rituel, par exemple, tu mets en place
pour il y a au moins... au moins deux ou trois outils nous ont vraiment beaucoup aidés sur ce sujet-là.
Ouais.
Le premier qui est vraiment génial, c'est qu'on a écrit ce qu'on a appelé un récit de marque, qui raconte l'histoire de façon à la fois aspirationnelle, comme on dit en marketing, et en même temps assez concrète, et quelque part qui fait le lien, ce lien dont tu parles, qui fait le lien entre la vision, la mission, et ce que ça veut dire concrètement, en fait. Alors, le récit de marque, il part un peu de l'histoire, de qui est la marque, comment on est né, etc., Tu poursuis par la mission, qu'est-ce qu'on veut pour le monde de demain, etc. Et puis, tu décris de façon un peu plus précise, du coup, nos produits sont comme ci, comme ça, nos clients les imaginent comme ci, comme ça. Enfin, tu poses les choses. Si tu as les moyens, tu fais une petite vidéo qui montre les choses de façon un peu plus concrète. Donc, ça, je dirais que c'est comme un peu une courroie de transmission entre ta mission et ta vision, ta mission et,
aussi entre
et l'opérationnel.
Le passé. Aussi entre le passé,
et l'avenir. Et ça a l'avantage de, quelque part, c'est pas réécrire le passé, mais c'est poser un socle commun. Parce que, quand t'as des gens qui sont arrivés à des moments différents dans la boîte, au moins, tu racontes l'histoire de la même façon pour tout le monde. Tu donnes une histoire commune. Tu recrées du lien comme ça. Juste une parenthèse aussi, c'est-à-dire que je pense aujourd'hui qu'avec la loi Pacte et la façon dont les boîtes mettent en place leur mission, il y a aujourd'hui quelque part l'obligation, quand tu rentres dans ce schéma-là, de poser des objectifs, pour le coup, chiffrés, très opérationnels. Donc ça, moi, je ne l'avais pas chez Guérin, mais tu as aujourd'hui des façons de faire qui sont beaucoup plus en lien avec l'entreprise. Fin de la parenthèse. Moi, ce qu'on avait fait chez Guérin, qui était plus opérationnel aussi, c'est que on avait dit voilà le récit de marque, comment on raconte, mais finalement le récit de marque il dure quand même plusieurs minutes, c'était un peu encore un peu compliqué parce que après la répercussion dans toute l'entreprise est plus compliquée. Du coup, on avait posé les points de différenciation de Guérin par rapport aux autres marques, qui là, pour le coup, étaient très concrets, en disant des marques de joaillerie, il y en a plein, des marques qui ont telle ou telle mission, je suis sûre qu'on peut en trouver d'autres. Nous, ce qui va faire notre différence, c'est la couleur, c'est les fleurs dans les produits, c'est... Enfin, voilà, on avait défini un certain nombre
très concrets.
Très concrets, et on passait au crible de ces points de différenciation-là, tous les projets, toutes les nouvelles collections, l'expérience client, en disant, en fonction de ces points de différenciation-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi concrètement ? Ça, c'est un autre outil. Et il y a encore un autre outil qu'on avait fait, et là, c'est les équipes RH et les équipes de vente qui avaient porté ce sujet. Ils avaient appelé ça c'était le profil vendeur et on avait appelé ça l'étoile vendeur, en fait. C'est-à-dire qu'on avait dit, stratégiquement, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes dans l'expérience que le client va vivre en boutique. Il y a ce qu'il va avoir de notre expertise, il y a ce qu'il va avoir de l'émotion, on a storytelling, etc. Et on avait concrétiser ça en comportement réel pour, enfin, justement, enfin, dire, c'est ce que tu, voilà,
ah oui,
on
oui.
a ressenti le même besoin que celui que tu exprimais, c'est de dire, ça veut dire quoi,
oui,
concrètement,
quoi, là,
être une marque premium, parce que une marque premium en joaillerie, tu demandes à 10 personnes, ça, ils vont te donner 10 définitions différentes. Chez Guérin, une marque premium, ça veut dire que t'es reçu comme ci, comme ça.
Voilà,
ça veut dire que t'as un sourire,
client.
Voilà, exactement. Ou on veut être une marque digitale. Ça veut dire quoi une marque digitale quand t'es dans une boutique, dans un centre commercial en fait. Et avec des exemples comme ça, ça permettait de. Et ça a été travaillé avec les équipes aussi. Hein, c'est pas un truc sorti du chapeau comme ça.
Et tu peux même, voilà. Tu peux même aller jusque de l'anecdotique, c'est-à-dire de raconter, parce que ça fait partie du récit de marque aussi, que de relever à la fois dans l'histoire et à la fois dans le présent les anecdotes où un tel a fait telle chose qui correspond exactement à l'expérience client. Il y a beaucoup de boîtes américaines qui font ça. Je ne sais plus quelle chaîne d'hôtels américaine raconte tout le temps la même histoire du mec qui avait oublié un truc dans sa chambre, il avait pris un avion, et puis tout d'un coup, avant sa conférence, il s'est rendu compte qu'il avait oublié, je sais plus, son ordinateur dans la chambre, et la personne qui faisait le ménage arrive à la réception et dit « j'ai trouvé ça », et on lui dit « bah oui, on vient d'avoir un appel du client qui a pas pu faire son… » Donc le mec prend l'ordinateur, il prend sa voiture, enfin je sais pas comment il fait, il fonce, il donne l'ordinateur… Et voilà. Et ça, en fait, je trouve que c'est intéressant quand on est dans cette démarche que tu décris, d'aller chercher ces trucs-là. Mais que ce soit vrai, même si après c'est un
bien
peu romantique.
Parce
que ça parle pas que à la rationalité, ça parle au cœur des gens. Et en fait, finalement, ce qui va faire que les gens vont s'aligner, et t'en parles beaucoup dans le bouquin aussi de ça, c'est qu'à un moment, les indicateurs, les reportings, c'est bien. Mais c'est pas ça qui bouge les gens, finalement, et qui les aligne. Ce qui les aligne, c'est « Ah, on est des héros !» ou « Ah, on fait ça !» « Ah, c'est ça notre place dans le… Dans » le...
Il y a un moment…
Il faut
dans
que
le...
ce soit ancré sur du concret, c'est ce que tu disais. Sinon,
du concret et…
Du blabla, quoi.
Et j'allais dire du symbolique, en fait. Il y a un moment dans le livre où
carrément,
je raconte
voilà.
que… Enfin, voilà, on avait passé… pas mal de temps sur justement les histoires, les explications, des newsletters, des séminaires, des brainstorming, voilà, en veux-tu, en voilà, vraiment, on a fait, je pense, tout ce qui est dans les bouquins sur ces sujets-là. Et un jour, on a, pour des questions de marketing et de communication, on a fait une campagne à la télé. Et en fait, ça a eu en une action un effet de prise de conscience, de fierté, de waouh dans les équipes, qui était puissance 10 par rapport à tous nos efforts des mois précédents, en fait, parce que c'était symbolique, c'est-à-dire qu'on passait de une enseigne de distribution à une marque qui communique à la télé, c'était un truc, les équipes étaient fières, il y avait leur famille qui en parlait, ils pouvaient montrer le truc, le clip à leurs copines, enfin voilà, il y avait... en une action, un effet spectaculaire. Et je pense pour deux raisons. Enfin, d'une part parce que c'était symbolique. On rentrait dans la cour des marques qui font ça. Et puis il y avait un côté émotionnel. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu rentres dans un truc qui est plus émotionnel, irrationnel, de joie et de plaisir. Quoi.
En fait, il y a un test que j'aime bien. Tu viens d'en parler, tu viens de dire, et du coup, ils en parlaient en famille. C'est de demander à tes collaborateurs de leur dire, j'appelle ça le test du repas de famille, c'est de dire, c'est quand la dernière fois que tu as parlé de la boîte à des copains ou... Et si tout le monde dit, j'en parle pas trop, c'est mauvais signe. Alors que si les gens disent, si, je leur ai raconté le dernier truc qu'on avait fait, etc. C'est des petites questions à poser, justement, pour tester
Exactement.
Si ça, c'est présent.
En fait, pour l'anecdote, moi, je m'en suis rendu compte dans mes relations avec mes anciens collègues du groupe Galeries Lafayette. C'est-à-dire que, on était une filiale du groupe Galeries Lafayette, et donc, au début, quand j'avais l'occasion de les recroiser, on me disait, alors, ça va, ça doit être difficile, ah ouais, il y a du boulot, voilà. Et un jour où ça s'est transformé, où les gens, c'était plus ça que qu'on me disait, c'était « Ah, j'ai vu le dernier produit qui est sorti, la bague machin, regarde, je me la suis achetée, c'est génial, je l'ai offert à ma filleule ou à une copine. » Et là, tu te dis, waouh, t'as passé un cap, en fait. Et voilà, c'est des choses irrationnelles comme ça. Mais là, tu te dis, ça y est, on a fait le switch. Voilà, en plus, aux galeries, il y a beaucoup de gens assez pointus, mode et tout. Donc, quand c'est des gens comme ça qui t'apportent ce regard, tu te dis, bon, voilà, on a fait le job, en tout cas, de ce point de vue-là. Et voilà, et tu rentres dans un truc de plaisir, quoi. Tu dis, ça y est, j'ai franchi un cap, hein.
C'est parce que tu peux le repartager avec tes équipes, inciter tes équipes à partager ce genre d'histoire. Et ça qui va mettre en route l'élan vers le changement. C'est absolument génial quand tu crées. Et on voit que finalement, on n'est pas sur des chiffres. Les chiffres suivront, en général.
Ouais, exactement. Exactement. Ça, c'est c'est aussi un enseignement. Enfin, évidemment, c'est ce que tu mets en place qui, à un moment donné, génère de la réussite.
Voilà. C'est la conséquence. Alors, est-ce que, c'est une question, je crois pas que tu l'abordes dans le bouquin, est-ce que tu as eu des désaccords avec des options qui ont été prises par les actionnaires? Et comment, si c'est le cas, tu as pu gérer ça vis-à-vis de toi-même, d'abord, et puis vis-à-vis de tes collaborateurs et collaboratrices?
Alors, non, en fait, si j'en parle pas, c'est que ça n'est pas arrivé. J'ai eu cette grande chance d'avoir à la fois la confiance et l'autonomie nécessaire qui m'a évité ça.
D'accord.
D'ailleurs, en le disant, je me dis, est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est aussi le fruit d'un certain mode de fonctionnement, en fait? C'est-à-dire que je dépendais du président du groupe, Philippe Houzet, que je voyais tous les mois pour parler de l'activité. Je pense que dans cette relation, et puis ensuite, on avait trois fois par an des business reviews, comme on a dans les groupes, en fait, avec des rendez-vous plus ou moins informels avec d'autres gens du groupe. La relation, elle s'est construite assez vite sur la confiance, parce que comme moi, en plus, j'arrivais, donc j'ai d'abord eu mon rapport d'étonnement, puis la stratégie, puis le chiffre d'affaires n'est pas du tout celui auquel on s'attendait. Donc quelque part, c'était à chaque fois des sujets dont je discutais, avec à la fois le constat et puis les propositions d'action. Donc quelque part, on a toujours été un peu ensemble, même si c'était moi qui proposais, pilotais au quotidien, évidemment. Mais c'est pas comme si on me laissait, où j'avais été toute seule dans mon truc pendant un an, et puis tout d'un coup, ça va pas, et on n'est pas d'accord sur ce qu'il faut faire. Les convictions, elles sont le fruit aussi d'échanges, de dialogues en permanence, et je pense que cette façon de faire a certainement fait que j'ai évité des contradictions profondes sur la stratégie. Il y a eu des discussions, mais normales, je dirais, qui sont peut-être plutôt
Ce qui est clé dans ce que tu dis, c'est la fréquence. C'est-à-dire que quand tu te vois régulièrement, d'ailleurs c'est vrai aussi avec nos équipes, tous les mois ou même toutes les semaines avec nos équipes, ça permet des réajustements successifs et de travailler par itération et finalement d'éviter des oppositions de fond, en fait, qui se construisent souvent sur de l'incompréhension, en fait.
La fréquence et l'état d'esprit, quand même. C'est-à-dire que si tous les mois tu te présentes avec la peur du coup près et l'idée de cacher un peu ce qui va pas parce que t'as peur de te faire engueuler, ça va pas non plus, en fait.
Ah oui,
Il y a quand même une transparente
en fait.
Oui, après, enfin, oui. Enfin, voilà. Après, je suis transparente là où ça me semble important. Je vais pas aller raconter toutes les difficultés parce que sinon ton boss il
commencer par les difficultés, c'est jamais très conseillé.
Oui, et puis il y a des choses dont tu sais que tu vas les résoudre rapidement, ça sert à rien d'en discuter pendant des heures.
Je suis d'accord,
il y a ton patron ou ton actionnaire, il a aussi un temps limité, donc tu lui parles des sujets qui te semblent importants et sans cacher des choses importantes, en fait. Et après le reste t'en parles peut-être pas, mais c'est pas pour les cacher, c'est parce que c'est pas nécessaire. Donc
par contre, si tu n'as pas la fréquence, même si tu as l'état d'esprit, je pense qu'il faut se méfier d'un actionnaire qui te dit tout le temps « Non, non, mais j'ai confiance en vous. » Mais en fait, qui ne te voit jamais pour discuter des sujets. Je parle parce que j'ai eu des exemples. Et qui finalement, tout d'un coup, là, le couperet tombe et personne ne l'a vu. Enfin, voilà. Il y a la confiance et il y a la fréquence. L'état d'esprit, je suis...
Et il y a une autre chose qui, moi, me semble super importante, c'est que ton actionnaire, enfin tes actionnaires ou les gens du groupe auquel tu appartiens ou voilà ou tes actionnaires quand tu es dans ta boîte, c'est aussi des êtres humains en fait. Et que très souvent, on a tendance avec ce type de partie prenante à être sur voilà la rentabilité, voilà le chiffre, voilà le machin. Alors que la vie de ta boîte, c'est des êtres humains, c'est des produits, c'est des clients, c'est des projets qui sont enthousiasmants. Et partager ça avec les gens qui sont autour, en fait, c'est ça qui bâtit tout autant la confiance et le partage et ce que tu vas en faire derrière que tes tableaux et tes plans d'action, en fait.
Tout à fait d'accord.
Et ça, c'est en plus, c'est plus sympa à faire, quoi.
Ouais. Puis c'est le pendant, mais vers le haut, de ce que tu disais tout à l'heure, de parler au cœur et pas seulement à la tête. Et je pense que même un actionnaire, même s'il n'est pas dans l'opérationnel, etc., voir la marque à la télé ou voir un succès qui a été remporté par la marque, même si les chiffres sont pas encore là, ça joue aussi forcément dans sa
manière.
Et puis
parce que ça fait partie de son groupe et que voilà, enfin c'est aussi c'est du plaisir pour tout le monde. Et tes parties prenantes, parce que là, les actionnaires, il y a aussi les fabricants. Enfin, c'est aussi des gens qui peuvent être à un moment donné tes ambassadeurs, qui peuvent te débloquer des sujets. Enfin, ils peuvent t'aider aussi dans la route. Donc, c'est une relation qui se travaille.
Ouais, très très vrai. C'est toujours une histoire d'être humain. Toujours, toujours.
Ouais.
Heureusement d'ailleurs. Alors, je sais que tu as un impératif. Il nous reste 5 minutes. J'ai deux questions. Je te les pose toutes les deux. La première, c'est si tu pouvais changer quelque chose à propos de ton aventure chez Guérin, qu'est-ce que tu changerais ? J'ai déjà noté le partage de valeurs dont tu as parlé tout à l'heure, mais il y a peut-être deux autres choses que tu aurais pu mieux faire. C'est toujours intéressant avec le recul. Toujours plus simple aussi avec le recul. Et puis à la fin, ce que j'aimerais bien voir, c'est trois pépites. Alors en plus, j'aime bien le terme, cette circonstance, que tu voudrais partager avec les auditeurs. Trois choses avec lesquelles ils pourraient repartir aussi, qui pourraient tirer de nos échanges. Donc, première chose, si tu pouvais changer trois choses à propos de ton aventure chez Guérin.
Ah, trois choses, ok. Parce qu'il y a un livre entier sur tout ce que je pourrais changer.
Comment ? Non, mais alors.
Je dirais que la chose essentielle, enfin, une des choses importantes dont je me suis rendu compte, c'est probablement cette histoire de rythme dans le changement. Si c'était à refaire, même si c'est toujours plus facile à dire a posteriori, hein, je pense que j'aurais pris peut-être un peu plus de temps au début pour à la fois le bilan, pour poser la stratégie la plus fine possible, en mesurer toutes les conséquences. Donc un peu plus de temps au début et beaucoup moins de temps après dans le déroulement en fait et l'exécution. Je crois qu'il y a cette, je pense qu'on, on a parfois zigzagué dans la vraie vie, c'est un peu comme ça, hein, donc c'est facile à dire a posteriori. Mais je pense que la bonne durée de ce type de changement, c'est plutôt 5 ans que 7. Être un peu plus... prendre le temps au début, quand on n'est pas tout à fait sûr, ça demande un peu de courage, mais il faut le faire. Mmh. Et en revanche, aller beaucoup plus vite et plus... de façon plus... entière, une fois qu'on est sûr de son truc, c'est une... point d'audace que je rajouterais, en fait.
D'accord, ok, intéressant. Donc, plus de temps dans la préparation, avec du recul, ouais. Ce qui permet, après, dans l'exécution, d'être plus tranchant.
D'être allé plus, exactement, tranchant. C'est un terme que j'aime pas trop, mais je pense que c'est ça.
Bon. Ouais,
exactement.
Ou plus rapide. Ou...
plus rapide, ouais, non, mais c'est ça. Plus direct. Okay. Des pépites. Hein.
Ouais. Ah ouais, on est dans la joaillerie.
Ouais. Alors, je dirais que... Alors, moi, il y a une pratique personnelle qui a vraiment intégré ma vie, c'est la méditation de pleine conscience, dont je parle un peu dans le livre, mais voilà, qui, moi, est ma ressource personnelle quand ça tangue, quand c'est difficile, voilà. Et aussi quand c'est très bien, parce que voilà, c'est une pratique quotidienne. Je dis pas que tout le monde, en tout cas, je conseille aux gens d'essayer au moins une fois.
Tu commences ta journée avec ça ?
N'accroche pas. J'essaye.
Ouais.
J'essaye. Je le fais un peu plus ces derniers temps, mais chez Guérin, c'était pas forcément début de journée, c'est des moments de respiration. pour ancrer les choses. Je dirais que, enfin, à chacun après de trouver ce qui, dans son hygiène de vie, lui permet de prendre, enfin, du recul, de prendre soin de soi, parce que voilà, si toi tu tiens pas, tes équipes tiennent pas, et c'est des moments qui sont, enfin voilà, c'est quand même, tu peux passer des trucs un peu difficiles en fait. Donc voilà, trouver ce qui personnellement, voilà, va te ressourcer, et voilà, ça c'est quand même une grosse pépite.
Il y en a, c'est la marche, hein. Il y en a, c'est la piscine, mais un truc qui te...
Voilà, c'est voilà. Donc, trouver ce, comment tu prends soin, comment tu prends soin de toi. Après, je dirais que pour moi, des grands enseignements de Guérin, c'est que, à un moment donné, tout peut s'arrêter. Et que, enfin, d'ailleurs, que tu sois salarié ou que tu sois propriétaire, voilà, personne ne sait ce que le monde te réserve, et l'aventure, elle est plus importante que, voilà, que la fin, quelque part. Et voilà, ceci, ça fait partie des maximes célèbres. Mais je dirais que là aussi, je pense qu'il faut bien, tout au long de l'aventure, penser, enfin, déjà en profiter, enfin, parce que avoir conscience de ce qu'on vit, quoi, enfin, et de à quel point c'est génial de, voilà, de vivre collectivement quelque chose.
Tu vois, c'est pour ça que je t'ai demandé si tu l'avais écrit pendant que tu vivais les choses, parce que je trouve que le journaling, c'est-à-dire le fait de journaliser un petit peu ce qui nous arrive chaque semaine, ça aide, ce que tu viens de dire.
Ouais.
C'est-à-dire, ça t'aide à dire, ouais, mais je suis peut-être ça ira pas au bout, mais en fait, je suis en train de vivre quelque chose de très intéressant. Je capitalise déjà sur ce que je vis. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Ouais, peut-être. J'ai jamais fait ça, mais ta méditation est ma façon justement d'intégrer les choses.
Ouais,
c'est une autre façon de faire, effectivement. Ouais. Et donc, cette conscience aussi de se dire, à un moment donné, ça peut s'arrêter ou ça sera plus moi qui dirigerai le truc, voilà, fait que quelque part, tu te rends compte que ce que tu... Les graines que tu sèmes en chemin sont tout aussi importantes, et c'est ce qui va te rester à un moment donné, et qui va rester à tes équipes et à tes clients, que finalement le fait que ce soit une success story ou pas. Et moi, j'aime bien me dire aujourd'hui qu'on a vendu des milliers de bagues. J'en vois parfois porter dans la rue ou le métro, c'est chouette, quoi.
Ouais,
et que t'as, en plus, on est, en l'occurrence, on était sur des produits qui peuvent rester toute la vie, donc c'est quelque chose que tu donnes aux gens qui sont liés à de l'émotion. Donc il y a cette notion là et puis il y a ce que t'as laissé comme empreinte pour tes équipes, ce que t'as diffusé autour de toi, comment tu les as formés et préparés à des nouvelles aventures, comment tu les as fait grandir. Ça, c'est des choses que tu sèmes en chemin. Ouais. Et plus t'en as conscience, je pense, plus tu donnes des moyens à ces petites micro-étapes en route. Parce que on est tout le temps, quand on est sur ce genre de truc, enfin moi, j'ai tout le temps focalisé sur là où on va arriver, là où on va arriver. On regarde tout le temps le futur. Mais il y a ce que tu fais maintenant, quoi, et ce qui va potentiellement rester.
Ah, super intéressant.
Une de mes grandes fiertés chez Guérin, par exemple, c'est qu'on ait obtenu ce qu'on appelle le RJC, c'est le Responsible Jewelry Council. C'est un genre de bicorp de la joaillerie, en fait.
Ouais.
Et en fait, on l'a obtenu en lançant des audits chez nos fabricants, en changeant des choses dans notre façon de faire, etc. Donc, et quelque part, ces audits qu'on a lancés, c'est des changements de pratiques chez des fabricants qui sont aujourd'hui... Enfin, voilà, on a changé la vie des gens qui bossent chez eux aussi. Enfin, il y a comme... on a commencé à diffuser un genre de truc vertueux. Enfin, et voilà, on a semé quelque chose en chemin. Attends, et avoir cette conscience-là, voilà, c'est des pépites. Hein, c'est peut-être pas des graines, c'est
ouais,
des pépites.
Non, non, mais j'ai noté ta phrase. Hein, peut-être qu'on a entendu le clavier, mais c'est pas grave, j'ai noté ta phrase. Je sème des graines. En fait, je trouve que c'est intéressant. Et voilà, et je voudrais te remercier parce que, en fait, tu continues à en semer. Tu as écrit un livre. Et je veux dire, ce livre-là, il a le pouvoir de changer la vie d'un manager, ou en tout cas de lui faire...
De l'améliorer un peu. Hein,
ouais, mais c'est ça.
C'est pas l'ambition de changer la vie des gens, mais en tout cas d'aider. D'aider et je me rends compte là où je pensais faire un livre opérationnel, et c'est ce qu'il est en fait, avec plein de trucs pratiques, etc., il y a un autre effet de ça, c'est que il y a une dirigeante qui exprime ses difficultés, qui partage avec les autres. Et je me rends compte qu'il y a des gens que ça étonne, en fait. Pour moi, c'est assez naturel de le faire.
Non, mais
je pense que par rapport à ce qui nous attend au 21e siècle, à tous les changements qu'il faut faire dans les boîtes, c'est un type de comportement qui doit se généraliser, en fait. On a besoin de partager les pratiques, c'est ce que tu fais avec ton podcast, d'ailleurs, d'être sur d'autres registres que j'ai tout fait, tout réussi, pas de problème.
Non, mais alors ça aussi, c'est une des caractéristiques du livre et d'ailleurs de notre échange, c'est que je trouve que tu as cette... Mais en fait, je l'observe assez souvent chez les dirigeants, malgré l'image qu'on en a, une grande humilité par rapport aux erreurs qu'on a faites, parce que je pense que quand on est dans ces positions-là, on a aussi peut-être moins de problèmes à assumer que de toute façon, la réussite passe par des phases d'échecs et de doutes et de difficultés, etc. Et c'est vraiment important de l'intégrer, sinon on s'abîme au travail, hein, je veux dire... Et effectivement, ce que tu as ajouté là, tu vois, c'est un truc qui m'avait jamais tilté, c'est qu'effectivement, quand on est dans des postes à haute responsabilité, on est très focus sur l'objectif qu'on doit atteindre au final, et on oublie complètement ce que tu appelles les graines qu'on sème tous les jours et qui sont probablement plus importantes pour le long terme des équipes, de l'entreprise, etc., que l'objectif qu'on va atteindre. D'ailleurs, il y a un autre bouquin de Simon Sinek qui s'appelle « The Infinite Game », où il explique que une grosse erreur qu'on fait en général quand on est chef d'entreprise ou à un très haut niveau de direction, qu'on fait les plus grandes, il cite, je pense, Jack Welch, par exemple, General Electric, où il dit que on voit l'entreprise, on voit ce qui se passe dans le business comme une partie. C'est-à-dire une partie de tennis, ou une partie de basket, ou une partie de football, peu importe, ou une guerre, avec à la fin un gagnant, un perdant, ou en tout cas avec à la fin une fin. Et lui, ce qu'il dit, mais non, dans l'entreprise, c'est pas ça. Ça s'arrête jamais. Ce qu'on veut, le truc fondamental d'une entreprise, c'est qu'on veut qu'elle se perpétue, qu'elle ait une pérennité, etc. Et donc, ça veut dire tout un ensemble de pratiques, de principes, de modèles mentaux qui sont complètement différents que ceux qu'on a quand on est en train d'affronter une équipe sur un terrain. Et je trouve que ce que tu dis, ça rejoint assez cette vision de dire, mais jouez la partie infinie. Faites pour que, même quand vous serez parti, ce que vous avez semé se prolonge, même si c'est quelqu'un d'autre, même si la boîte a été vendue, même si c'est plus tout à fait la même boîte, etc. Et je trouve que cette vision, elle est intéressante, parce que du coup, on est moins dans la précipitation, parce que du coup, on va être plus dans ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as dit, j'aurais dû préparer davantage, pour avoir une exécution plus rapide ensuite, ça permet d'avoir plus de recul par rapport à ce qu'on fait, de le recontextualiser en se disant « Attends, on ne va pas foncer tête baissée, il y a peut-être ça qu'on pourrait faire mieux, etc. etc. » Donc, vraiment, je te remercie pour ça, pour cette humilité, et puis, je ne sais pas, on appelle ça de la montrer qu'on est vulnérable aussi un petit peu.
Ouais, tout ça peut être de l'humanité, je crois, c'est tout.
Bah ouais.
En tout cas, merci à toi en tout cas d'avoir pris le temps de, d'écouter, de lire et de donner de la visibilité pour aider les gens.
Je vais faire mieux, je mettrai en commentaire du podcast et sur le forum les références de ton livre, vraiment qui est assez complémentaire par rapport à l'échange qu'on a eu aujourd'hui. Moi aussi je te remercie pour ton temps. Et puis, pour ton humilité, c'est ce qui m'a le plus marqué dans ta manière de témoigner. Je te remercie pour ça. J'espère que ça vous apportera, ça apportera beaucoup aux auditeurs. Et si vous voulez continuer la conversation, on peut en parler sur le forum. En tout cas, un grand merci, Ilanit. Je rappelle le titre du bouquin, ça s'appelle Splash, avec un point d'interrogation, un point d'exclamation, pardon.
Merci, Cédric.
Au revoir. J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu as eu des déclics et des prises de conscience. C'est l'objectif de ce podcast. Si c'est le cas et que tu vas aller plus loin avec moi pour passer à l'action, parce que sans action, la réflexion ne sert à rien, je te propose une série de mails spécifiques qui sont en lien avec le sujet abordé par cet épisode. Ils vont te permettre de bien ancrer les idées et de passer à l'action. Et si tu veux aller encore plus loin, je te proposerai une formation. Il te suffit de cliquer sur le lien en descriptif et de me donner ta meilleure adresse email. À bientôt. Salut.
Alors, tu vois, je viens de faire un petit calcul.
on a à peu près 3 millions de téléchargements du podcast et on a à peu près 890 avis sur le podcast. Bah en fait, ça fait que 0,03% de personnes qui, après avoir écouté un épisode, ont laissé un avis. Je trouve que c'est pas un super pourcentage et je pense que vous pouvez être plus nombreux, quand un épisode vous plaît, à mettre un avis positif. Donc, surtout, n'hésitez pas, ça nous rend un énorme service et ça nous fait super plaisir. Merci.